Bonjour Yana. Tu t'approches bien? Même le siège, si vous voulez l'aider, François-Xavier, parce que c'est vrai qu'ils sont un peu grands et lourds, ces sièges. Tu as quel âge, Yana?
J'ai 19 ans.
19 ans?
Ouais.
D'accord. Tu viens de quelle ville?
Je faisais mes études à Kharkiv, mais ma ville natale s'appelle Mena, c'est à côté de Tchernihiv. Quand la guerre a commencé, j'étais à Kharkiv.
D'accord. N'aie pas peur de parler bien fort.
Ok.
Parce qu'on a envie d'entendre ce que tu vas nous raconter.
Mm-hmm.
Tu es partie de ta ville où tu faisais tes études. Et où est-ce que tu t'es rendue quand il a fallu partir? Tu t'es dit, je vais où?
J'étais chez l'ami de mon père, à Kharkiv aussi. Et je passais tous les jours avec sa famille.
D'accord. Quand il a fallu partir, tu savais où tu allais aller?
C'était comme surprise où je peux aller.
D'accord. Donc tu n'es pas partie seule?
Si.
Si, tu es partie seule?
Oui, j'ai partie seule et c'est les bénévoles qui m'aidaient à quitter Kharkiv. Et j'ai partie toute seule à Dnipropetrovsk, Dnipro. C'est une ville en Ukraine. Et après, aussi, le bénévole m'a aidé à quitter Dnipro. Et nous avons allé à Kropyvnytsky. Après, je suis allée à Rivne.
En voiture, en bus, en train?
En voiture.
En voiture. En
voiture avec les bénévoles. Et après, c'est mon grand-père qui me ramenait à Ivano-Frankivsk. C'est aussi en Ukraine, c'est à côté de la frontière. Et après, il me ramenait aussi à la frontière Ukraine-Pologne.
Et il a fallu que tu passes la frontière. Il a fallu que tu traverses pour aller en Pologne.
Oui.
Ça s'est bien passé?
Oui. Il n'y avait pas beaucoup de gens parce que c'était la frontière pas trop populaire. Que j'ai passé la frontière à 1 heure, je crois.
Ah, tu as mis 1 heure pour passer la frontière, d'accord.
Nous avons passé beaucoup de jours au sous-sol. Parce que tous les jours, les villes étaient bombardées. Et c'est parce que nous avons passé tous les jours en bunker. Mais nous avons un peu de temps pour aller manger ou prendre les douches. Mais
tu allais prendre ta douche à la maison,
ouais.
Et après, manger et ouais. Tu redescendais.
Ouais.
Alors tu pour dormir?
Dormir en sous-sol.
D'accord. Toutes les nuits?
Non, il y a quelques nuits que nous avons quand nous dormions à la maison.
D'accord. J'ai peur de la bousculer. Tu as vu quoi comme dégâts sur ta ville?
Quand les bénévoles m'aidaient à quitter Kharkiv, et il y avait aussi une madame vieux, et nous avons allé à la centre de la ville à voiture, et j'ai vu notre ville qui était j'ai oublié les mots.
Détruite.
Oui. C'était détruit. Tout s'était détruit.
Les rues que tu connais?
Oui. Et aussi, c'était détruit. Le centre de la ville et beaucoup de maisons des gens. Maintenant, à Kharkiv, il y a presque rien.
Toi, ta famille est restée là-bas?
Ma famille est restée dans ma ville natale. Cette ville est occupée maintenant. Donc, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion mobile, il n'y a pas de télé chez mes parents. Mais hier, ma mère m'appelait. Et il m'a dit que ça va chez eux, mais la ville à côté, Tchernigiv, c'est toujours bombardé.
Est-ce que tu aurais imaginé un jour qu'il y aurait une guerre dans ta ville, à côté de toi?
Oui, c'était avant la guerre, quand Poutine, quand il a dit que le territoire annexé, c'est l'indépendance. Donc c'était comme... c'était le jour quand nous pouvons comprendre que quelque chose ira pas trop bien.
Ta famille, tu y penses tout le temps, j'imagine.
Ah oui.
Aujourd'hui, tu voudrais qu'elle vienne avec toi?
Oui, je veux, mais la ville et mes parents sont bloqués parce qu'il n'y en a pas de route, il n'y en a pas de pont. Donc, il peut aller juste sur la rivière, mais c'est très dangereux. Donc, il ne peut pas aller là.
Ils ne peuvent pas sortir de la ville.
Ouais. Enfin, il faut trouver une solution sur place pour les extraire, entre guillemets, du village. Mais là, c'est très compliqué. On lutte contre les soldats russes. Je ne sais pas quelle est la solution. Maintenant, ceux qui arrivent à s'extraire d'un endroit, l'association de Daniel, dont j'ai parlé tout à l'heure, elle met en contact les gens comme nous, entre guillemets, qui se permettons de faire des allers-retours et les rapatrier ici. Après, l'action à l'intérieur de l'Ukraine, je ne veux pas dire qu'on ne sait pas faire, mais aujourd'hui, on n'a pas les clés. Par contre, on sait faire ce qu'on a fait le week-end dernier, c'est-à-dire... faire un aller avec des produits médicaux, etc., et un retour avec des gens qui veulent fuir la guerre et venir en France. Ça, on sait faire. Maintenant, il faut qu'on trouve les clés pour justement... On a demandé à Yana si elle avait des amis, si elle avait des connaissances qui voudraient profiter de ça et qui avaient la possibilité de quitter le pays et d'aller jusqu'à la frontière. Nous, enfin voilà, je pense que je parle au nom de FX et évidemment de ma femme Mika. On a des enfants. On a prendre le risque d'aller dans l'Ukraine, c'est quand même un risque supplémentaire aussi pour nous. Je veux pas dire qu'on peut pas le faire, mais aujourd'hui il y a des le pays, les Ukrainiens sont très très solidaires. C'est évidemment normal. Ils sont tous regroupés autour de leur drapeau et de leur pays, et il y a un réseau de bénévoles. Quand Yana a voulu quitter le pays, il y a tout un réseau, une organisation bénévole qui a pris en charge Yana point par point en lui disant « Tiens, ce soir tu dors là, etc. On repart demain, je t'emmène là. » Il y a toute une résistance, entre guillemets. Hein. Mm-hmm. On peut utiliser des mots qu'on utilisait chez nous il y a bien longtemps, la dernière guerre, mais il y a un réseau de résistants qui aident les citoyens à sortir en organisant des voyages comme ça. Je pense que voilà, si on se met en relation avec ces gens-là, justement, on peut organiser des sorties. C'est ce que fait très bien Daniel, a priori. Il a des nouvelles de ces gens à l'intérieur du pays. Il organise leur arrivée sur le territoire polonais et les rendez-vous avec des gens comme nous qui font des convois.
D'accord. Vous en connaissez beaucoup des gens qui font des convois comme vous ?
Alors, connaître
en tout cas,
réellement,
avoir
non,
connaissance
mais avoir connaissance, oui, parce que quand on a fait le trajet, sur les 15 heures de route aller et les 15 heures de route retour, on a croisé énormément de convois de tous les pays. On a vu des Espagnols qui avaient fait... alors nous, on s'est dit, on fait 1500, ça va être dur. Quand on les a rencontrés, ils étaient à 2000 et quelques, et ils faisaient aussi l'aller-retour dans le week-end, puisqu'on les a vus sur la route retour. On a vu des convois italiens, on a vu des convois hollandais, on a vu... Enfin, vraiment, il y a un élan je ne vais pas dire de générosité, mais voilà, je pense que les gens donnent de leur temps et font ce qui est possible de faire. Et on a vu énormément de monde, on a croisé des convois de bus, on a de camions, de fret, de choses comme ça. Donc oui, il y a quand même énormément de monde qui fait ce petit périple-là.
Yana, aujourd'hui, tu penses qu'ils ont besoin de quoi, les gens qui sont restés dans ta ville, matériellement?
De nourriture.
De nourriture.
Parce qu'il n'y en a pas de Il n'y en a pas de route, donc il n'y en a pas de nourriture dans les magasins. Et c'est les choses plus importantes.
Et moins importantes?
Les vêtements. Les médicaments aussi. C'est très important parce qu'il n'y a pas de médicaments. Et nourriture, médicaments et vêtements. Ouais.
D'accord. Donc ça, c'est ce que nous, on peut donner à l'association de Julien et de François-Xavier pour qu'ils mettent dans leur voiture, qu'ils aillent en Pologne, qu'ils donnent les vêtements, les médicaments et l'alimentation. Et que, eh ben, à la place, il y ait des gens que tu connais ou des amis ou de la famille qui reviennent en France avec Julien et François-Xavier. Yana, tu as dormi combien de temps en arrivant?
Alors, j'ai
une deuxième question. Quand tu es arrivée chez Mika et Julien, tu as bien dormi? Ou tu avais des pensées?
J'aurais un réveil pas trop bien avec l'avion et tout ça en Ukraine. Ah. L'avion qui bombardait le train. Mais après, je dorme bien. Mais Mika me réveille le matin pour aller chez le docteur avec les petits. Mais ça va.
D'accord.
La pauvre, on l'a réveillée les deux jours, les deux matins. Hier, on la réveille parce que, en fait, le petit bébé de 4 mois, Elisabeth, de la famille qui est à Taon, la maman voulait vraiment faire un check-up avec un médecin, avec un pédiatre. Et on avait besoin de Yana pour faire la traduction. Donc, la pauvre, on l'a réveillée. Alors, elle a fait, je crois, 12 heures de sommeil largement méritées après son périple. Mais donc, on l'a encore mis à contribution pour venir nous aider. Et ce matin, elle dormait. Et Yana, viens parler à la radio.
Je suis désolée.
Non, je suis heureuse que les gens peuvent connaître ce qui se passait en Ukraine. Donc
c'est bien. Tu vas prendre un temps pour toi, pour te reposer maintenant.
Est-ce que vous pouvez répéter?
Tu vas prendre un peu de temps pour toi, chez Mika et chez Julien.
Ouais.
Pour te reposer, pour s'amuser, je ne sais pas si on peut vraiment le faire, mais pour penser à autre chose. Mmh. Oui.
C'est un peu difficile et un peu bizarre que mes amis et ma famille en Ukraine et moi ici, où c'est calme, il y a de la nourriture dans les magasins, il y a des médecins, j'étais... au cœur, c'était surprise. Mais j'espère que tout ira bien.
Moi aussi.
Donc bonjour, je m'appelle Julien Pressac, je suis, j'ai 42 ans, artisan, voilà.
D'accord, votre rôle dans le projet qui vous a amené à faire un voyage jusqu'à la Pologne ou l'Ukraine ce week-end?
Le rôle, c'était d'apporter le moyen technique, c'est-à-dire une voiture, et puis de la conduire, de la mener à bon port sur la frontière polonaise, Ukraine, et puis de revenir avec ces personnes qui voulaient fuir la guerre et les amener à bon port jusqu'ici dans les Vosges.
Vous êtes parti à plusieurs?
Alors, on est parti à 3 voitures. On était 8 conducteurs à s'échanger le volant. Pour des raisons de sécurité, on faisait des petits relais. C'est spontanément, en fait, via des messages Facebook, que les gens se sont rencontrés. On ne se connaissait pas forcément, ces 8 conducteurs. Ça a été vraiment une bonne expérience. On s'est tout de suite entendu. On avait une envie commune, c'était d'aider, de servir à quelque chose, en fait, de ne pas être... passif à regarder ce qui se passe juste aux frontières de l'Europe et d'essayer de faire quelque chose. Voilà.
Quel lien vous a amené à vous pencher sur cette problématique plus que sur une autre?
Les pays de l'Est, non, pas plus que ça. Il y a des gens qui faisaient partie du convoi qui ne sont jamais sortis du territoire français, donc c'était même pas... c'est simplement touché par ce qui leur arrive. Et puis on regrette absolument pas, parce que quand on entend le discours de Yana qu'on a ramené chez nous, c'est touchant. Je pense qu'on a pris les 8, on est très touché par ce qu'on a fait. J'ai les larmes aux yeux en vous parlant. On a pris une grosse leçon de courage, de c'est eux les héros, c'est pas nous. Et je suis assez fier de l'avoir fait.
Vous avez mis combien de temps aller-retour ?
Donc nous sommes partis le vendredi à 19h30. On est arrivé à la maison à 17h le dimanche. On n'a pas dormi, on s'est échangé le volant, je pense qu'on a cumulé chacun 3 heures de sommeil à l'arrière de la voiture, sur la banquette, etc. Je pense que c'est l'importance de ramener ces gens à bon port qui nous a tenus éveillés. On était, il fallait qu'on se tienne, il fallait réussir la mission, entre guillemets, qu'on s'était donnée.
D'accord. Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas ou sur le chemin ?
Le courage des gens.
Le courage de partir, le courage de voir son environnement dans un état de conflit.
On parle de gens, le pays est envahi, on récupère des gens à la frontière, des femmes, des enfants qui laissent sur place leur famille. Toutes les représentations masculines de la famille restent sur place pour se battre, c'est-à-dire le papa, le mari, l'enfant. Tout se percute entre fuir la guerre, avoir vu des images horribles, aller dans un pays qu'on ne connaît pas ou peu, laisser sur place les hommes de la famille se battre et lutter. Enfin, plein de choses se percutent, en fait.
Vous ne saviez pas qui vous alliez rejoindre là-bas ?
Non, en fait, on est rentré en contact, et ça, c'est ma femme qui a pris contact avec une organisation vosgienne qui a l'habitude de travailler avec l'Ukraine sur des échanges de scolaires, etc., bien avant le conflit. Hein, donc, et lui, maintenant, depuis le conflit, son objectif, c'est de rapatrier le plus de gens de cette association ici chez nous, dans le Grand Est. Yana, qu'on a ramené, est venue 3 fois un mois en France, dans une famille à côté de Verdun. Elle est allée à l'école 3 fois
un
mois.
Dans un cadre de correspondance.
Voilà, exactement. C'est donc, l'association s'appelle Lubia L'Or Ukraine. C'est Daniel, notre contact, qui nous a aidés à aller récupérer Yana et une autre famille dans une gare en Pologne.
D'accord. Ça m'impressionne, en fait, de se dire on part, mais on ne sait pas qui on va rencontrer.
Alors, en fait, on avait son contact. Lui nous a dit, vous avez tant de place dans la voiture, je vais trouver. Il y a forcément, j'ai des besoins. Quand on est arrivé, Daniel de cette association faisait partir 3 minibus avec, je crois, 19 places ou quelque chose comme ça, pour récupérer encore. Il y a encore des gens qui attendent à la gare ou aux frontières, des gens qui, ils sortent d'un train dans un pays qu'ils connaissent pas, la Pologne. Ils sortent, ils regardent un peu partout, ils savent pas où ils vont dormir, manger. C'est la réalité, c'est ce qui se passe là-bas. Donc toucher, je pense que c'était bien de le faire, quoi.